C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzé. Auteur Yukio Mishima, 1925-1970. Écrivain, japonais, sans religion, homosexuel marié et père de famille, suicidé. Œuvre Confession d'un masque, Kamen no Kokuaku, 1949. Première traduction française en 1971. Personnage, le narrateur. Le mot « personne », dans son sens originel latin, signifie « masque ». Le premier qui a ajouté un sens nouveau au mot, celui de « personne » comme être humain en tant qu'il a conscience d'exister, était un génie. Il savait que tout être social est un masque, son masque. On devient le masque que l'on porte. Et les auteurs de théâtre antique ou japonais, faisant porter un masque à leurs acteurs, étaient moins rudimentaires qu'il n'y paraît. En tout cas, par ce moyen, ils évitaient l'illusion naturaliste qui consiste à croire que ce que le visage exprime malgré lui est la vérité supposée de l'être. Le personnage est la personne est le personnage. Un japonais, Mishima, a eu beaucoup de courage toute sa vie durant. Un courage tapageur, parfois tristement stupide, comme la façon théâtrale dont il a organisé son suicide, mais n'avait-il pas cherché toute sa vie à provoquer pour se faire martyriser? En tout cas, dès son premier livre, Confession d'un masque, il a fait un aveu d'un risque considérable. En 1949, où l'homosexualité était pénalement condamnée et socialement réprouvée, c'était en effet un aveu. Voici une proposition qui n'aurait sans doute pas plu à ce nationaliste. Qui sait si ce n'est pas parce que le Japon avait été battu 4 ans auparavant et gravement battu que, accablé de bien d'autres soucis et ayant perdu beaucoup de son arrogance, il a accueilli le roman de Mishima sans scandale. On pourrait dire que Mishima était alors un inconnu et que son roman a été lu comme une pure fiction, par curiosité et sans doute aussi par voyeurisme. Sauf que Mishima avait fait des déclarations selon lesquelles son livre était autobiographique. Il y a de bien belles phrases dans ce roman, parfois maladroit, mais je pense que les premiers livres des très bons écrivains sont nécessairement maladroits et fougueux. Ils ont tant à dire et avec tant de passion, sans disposer de l'art nécessaire. Une de ces belles phrases est « Ce que je voulais, c'était mourir parmi des étrangers, paisiblement sous un ciel sans nuages. » Parmi des étrangers, paisiblement, sous un ciel sans nuages. Et le malheureux Mishima est mort parmi des Japonais, hystériquement, sous un ciel orageux. Tel était le prix de son masque d'héroïsme qu'il avait porté avec constance. Qui est le narrateur de Confession d'un masque? Pour en parler, je reçois Dominique Palmé, auteur de la nouvelle traduction du roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Dominique Palmé, à quoi ressemble le narrateur de Confession d'un masque au début du roman, c'est-à-dire dans son enfance, puisque nous le suivons de son enfance au début de son âge adulte?
Il ressemble à un petit garçon élevé dans une famille de la très grande bourgeoisie japonaise qui est surprotégé par sa grand-mère et qui va prendre conscience très vite, mais sans savoir à quoi ça correspond, du fait qu'il est plus attiré par des garçons que par des femmes.
Est-ce que Mishima lui donne un aspect physique ?
Dans mon souvenir, absolument pas. On sait simplement qu'il est frêle, qu'il a failli mourir dans sa toute petite enfance, qu'il n'a jamais appris à nager parce qu'il était trop fragile pour ça, et que chaque fois dans le collège des pères, enfin donc l'école qui était réservée aux enfants, petits-enfants de normalement de l'aristocratie japonaise, il ne peut pas participer avec ses camarades à tous les exercices sportifs, et en même temps, quand ça lui arrive quand même d'être obligé d'y participer, il a une honte absolument atroce d'être vu physiquement. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement physique, même dans les mots qu'il utilise.
Alors, ce narrateur est sans nom, peut-être pour nous montrer qu'il est seul dans son monde et dans son problème.
Mishima a une façon très particulière d'utiliser, enfin de créer des noms de famille ou des noms de personnes. Le seul moment dans ce livre où il est désigné par, enfin où le narrateur est désigné par le diminutif de son prénom, c'est Ko-chan. Le nom de famille, enfin de naissance de Mishima Yukio, c'est Hiraoka Kimitake. Or, il se trouve que le prénom Kimitake, quand on le prononce à la chinoise, ça devient Kobu. Et donc, je crois que c'est une de ses cousines à un moment, ou peut-être sa sœur cadette dans le livre, qui l'appelle Ko-chan. Chan, c'est le diminutif affectueux pour san, qui est le suffixe que l'on met pour les désigner monsieur, mademoiselle, madame. Voilà. Donc, mais à part ça, il n'est jamais nommé.
Il n'est jamais nommé. Une question, oui. Pardon, j'ai prononcé très mal probablement le nom japonais du livre. Est-ce que c'est la traduction exacte, Confession d'un masque?
Oui. Bon. Et le titre, littéralement, ça voudrait dire, enfin le masque de Kamen, c'est masque visage provisoire, c'est-à-dire les deux.
Donc ça veut dire que ce mot à double fond, comme dans la tradition latine, au fond, existe aussi au Japon.
Exactement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que, par exemple, le masque protecteur que portent les pratiquants du kendo, enfin du sabre, on l'appelle « men ». Hein. Ah oui. Donc c'est le même idéogramme, et quand ils attaquent de front, ils attaquent en criant « men, men, men hein. ».
Je dois dire, pardon, que oui. Sauf erreur, la première traduction de Confession d'un masque que j'ai cité tout à l'heure, des années 70, était faite à la demande de Mishima d'après l'anglais, et vous traduisez d'après le japonais, n'est-ce pas?
Alors en fait, non pas à la demande de Mishima.
Ah non?
À la demande du traducteur américain. Alors là aussi, c'est une histoire intéressante. C'est-à-dire que le traducteur américain, qui doit être décédé maintenant, j'imagine, s'appelait Meredith Weatherby. C'était un sous-officier de l'armée américaine d'occupation dans le Japon à partir de 1945. Il était homosexuel. Il a rencontré Mishima dans les bars gays de Tokyo au début des années 50, parce que d'ailleurs sous l'influence des soldats des officiers de l'armée américaine, il y a eu une mode chez les intellectuels et les gens de théâtre, de radio, de télévision de l'époque, de fréquenter les bars gays.
Et d'ailleurs, puisque vous en êtes là, le mot « gay » a été importé tel quel dans un autre roman de Mishima.
Oui.
Qui est Les Amours Interdites.
Oui, exactement.
Et c'est la première fois qu'il apparaît,
oui.
Et qui date des 53,
date,
je crois.
Oui, justement, la première partie date de 1951, si mon souvenir est exact, et la deuxième de 1953. Donc, Mishima rencontre cet homme dans les bars gays. Apparemment, ils ont sympathisé. Et puis, ensuite, Meredith Weatherby retourne à New York, et c'est lui qui contacte Mishima pour lui demander s'il accepterait que son œuvre, donc Kamen no Kokuhaku, Confession d'un masque, soit traduite en anglais. Mmh. Or, il se trouve que à ce moment-là, je crois que ça se passe en 1955, si mon souvenir est exact, ce qui veut dire que Mishima a à peine 30 ans et qu'il n'a jamais été encore traduit en langue occidentale. Donc, il accepte.
Bien sûr.
Il accepte. Après, si vous voulez, il y a une moitié histoire, moitié légende. C'est-à-dire que Gallimard, donc qui a jusqu'à présent l'exclusivité des droits pour la traduction et la diffusion de l'œuvre de Mishima en français, a dit que Mishima avait demandé que la totalité de son œuvre, quand elle serait traduite en français, le soit non pas à partir du texte original japonais, mais à partir de l'anglais. Alors, il y a une part de vérité là-dedans, et il y a une part, non pas de mensonge, mais de très mauvaise interprétation de l'éditeur français par rapport à ça. C'est-à-dire, moi, ce que je sais, la réalité des faits, c'est que Mishima était venu plusieurs fois à Paris, notamment au milieu des années 60, donc quelques années avant son suicide. Je crois qu'il avait été présenté à Gallimard par Marguerite Yourcenar. Et moi, j'ai eu affaire, il y a au moins 20 ans, 25 ans, avec un des anciens directeurs de la collection du monde entier, qui avait fait une carrière de 35 ans à ce poste, et qui me disait, j'ai vu une copie de la lettre en anglais qui avait été donnée à Gallimard par Mishima, peut-être via Yourcenar, pour demander effectivement que son œuvre soit traduite de l'anglais. Mm-hmm. La question, c'est est-ce que cette lettre, qui apparemment a existé, a valeur testamentaire. À mon avis, absolument pas. Donc, pour vérifier ce détail, j'ai écrit au Japon et j'ai demandé si dans... Est-ce que d'abord Mishima avait rédigé un testament concernant son œuvre avant de se suicider? Et est-ce que ce testament, s'il y avait des clauses, portait sur uniquement sur une ou deux œuvres majeur ou sur la totalité de son œuvre? La réponse, enfin, d'un des plus grands spécialistes de Mishima au Japon, c'est, à ma connaissance, il n'existe pas de disposition testamentaire de Mishima dans ce sens. Mais moi, je pense que ce suicide a fait scandale et pas uniquement au Japon, que Gallimard s'est dit ça va faire un coup éditorial absolument extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment-là, pof, on fait traduire l'œuvre de Mishima de l'anglais, soi-disant parce que c'était sa demande. Mais il n'y a pas de logique là-dedans.
Pour en revenir au, oui, au narrateur de Confession d'un masque, Dominique Palmet, c'est un enfant réservé, timide et plein de tact. Il a une phrase très émouvante, je trouve, qui est « Moi qui craignais tant de blesser les grandes personnes ».
Oui. C'est quelque chose, ce premier chapitre notamment, mais j'aime l'ensemble du livre, hein, mais je trouve ce premier chapitre, comme vous, il y a quelque chose d'extrêmement touchant. D'abord parce que la façon dont il décrit son éveil à la sensualité, donc à la sexualité, même si c'est pas encore que c'est de l'érotisme, c'est extrêmement vivant. Il a une façon de mettre le lecteur, je trouve, en face, enfin de le ramener à ce que n'importe quel petit garçon, voire petite fille, aurait pu ressentir de l'incompréhension des adultes, notamment quand il était très petit enfant. Et il y a quelque chose que je trouve effectivement, oui, comment aurait-il pu se douter, je ne sais plus quelle est l'expression, mais cet enfant au teint blême qui avait si peu l'air d'un enfant, moi qui avais si peur de blesser les grandes personnes, etc. Et c'est vrai que c'était un enfant très solitaire. Sa grand-mère lui a imposé cette solitude, puisque la grand-mère avait rapté l'enfant à l'âge d'un an et demi, je crois, à la mère qui habitait au premier ou deuxième étage de la maison. Ensuite, Mishima lui-même, parce qu'il a écrit ensuite beaucoup sous forme d'essai, hein, de son enfance, il décrit en tout cas, ce qui est aussi le fait du petit personnage dans le premier chapitre, il ne souffrait pas de cette solitude. Au contraire, il la recherchait.
Il le dit dans le roman, et sa solitude, il s'y plonge dans la songerie aussi. Et comme souvent, les songes, les siens lui révèlent des choses bien réelles. Et par exemple, ses lectures des contes de fées qui lui révèlent, je le cite, « Je n'aimais pas les princesses, je n'aimais que les princes ». Et il a 4 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, sa sensualité est liée à l'idée de mort. Il dit qu'il aime les princes, mais ceux qui sont condamnés à mourir.
Ceux qui sont condamnés à mourir, oui, oui. Il y a chez Mishima, et ça apparaît très bien chez ce personnage, une peur et même un rejet de la réalité de notre monde telle qu'elle existe. Et je ne sais plus à quelle occasion, quand il se travestit et que ça scandalise tout le monde dans la famille, là il est tout petit, et il dit, je crois, c'est la première trahison à mon égard de la réalité. Le terme trahison est très souvent utilisé parce que il s'est bâti un monde de rêve qu'il imagine. Il y a aussi un passage que je trouve très beau, enfin sur le plan poétique, c'est quand la nuit tombe sur la ville de Tokyo et que les grandes personnes partent voir des spectacles, que lui il est là tout seul et il imagine au-delà des fenêtres dans cette nuit un monde absolument extraordinaire, dont ses parents vont rapporter des sortes de paillettes de songes en rentrant. Et donc, il y a un refus de la réalité.
Et tout, à tel point que tout passe par l'imagination et que sa première expérience sexuelle passe par le biais d'un livre, puisque oui, ce petit personnage découvre dans la bibliothèque de son père un livre sur la peinture italienne.
Oui. Et donc, il tombe sur, je dirais, ce tableau qui est d'ailleurs un tableau absolument adoré par les gays du monde entier quand ils sont cultivés, c'est le Saint-Sébastien au corps percé de flèches de Guido Reni. Donc, en fait, ce qu'il frappe, c'est immédiatement l'image.
Oui, c'est ça.
C'est immédiatement l'image.
Et c'est sa première masturbation. C'est d'ailleurs une scène très bien, de 3 pages, très frappante et très, très étonnamment écrite.
Oui. En fait, c'est sa première éjaculation.
Parce que,
alors, ce qui est aussi très, très étonnant par rapport, si vous voulez, à Confession d'un masque, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, dans la première édition, enfin, donc j'ai le facsimilé, hein, de 1949, en fait, il s'amuse à mettre en alphabet des mots qui concernent justement, je dirais, tout son vocabulaire de l'érotisme, assez élémentaire quand il est adolescent, c'est-à-dire qu'il ose mettre en latin éjaculatio, masturbatio et même pédicatio. Et bien évidemment, le lecteur même cultivé des années 49, enfin fin des années 40 au Japon, ne comprend absolument pas. C'est-à-dire que ça attire l'attention. Et sur des choses qui ne doivent pas être exprimées de toute façon dans la langue japonaise. Et en même temps, donc le lecteur ne comprend pas, mais le contexte est tel qu'il ne peut que comprendre. C'est donc le voilement-dévoilement. Et donc ça, c'est très intéressant,
En effet. Alors, le narrateur de Confession d'un masque entre au collège, il devient amoureux d'un camarade de collège qui est une sorte de rebelle, rien ne se passe d'ailleurs.
Oui.
Et puis, ce qui est le temps passe un peu, il est mobilisé pendant la guerre. Il a 22 ans, il est vierge, il a honte, il va au bordel, rien ne se passe. Et là, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Sonoko.
Sonoko. C'est, elle est présentée comme la sœur cadette d'un de ses amis d'université. Alors, on est en fait tout à fait à la fin de la guerre du Pacifique, hein, c'est-à-dire en 1945. Et il a l'occasion, enfin, son ami a déjà été engagé, enfin mobilisé pour des manœuvres militaires dans un autre endroit du Japon. Et donc, un jour, les parents, enfin plus exactement la mère de cet ami, parce que le père est mort, c'est une famille de femmes, il y a la grand-mère, la mère et trois fille, lui dit « Mais nous allons rendre visite à sa caserne en province, à mon fils aîné, est-ce que ça vous dirait de venir avec moi ?» Et donc c'est à cette occasion-là qu'il voyage dans le train avec la jeune Sonoko, lui à l'époque à 20 ans et elle en a 18. Et en fait, depuis le moment où le narrateur commence à se douter qu'il est exclusivement attiré par les garçons, c'est un truc qu'il supporte pas, donc il fait tous ses efforts pour se persuader qu'il est capable d'aimer une femme. D'ailleurs, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement émouvant dans cette façon de vouloir rebâtir la réalité selon son désir, et donc il va se persuader qu'il est amoureux de Sonoko. Et ça va se terminer par un fiasco.
Nous allons maintenant entendre un extrait du Martyr de Saint-Sébastien de Claude Debussy par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Kurt Masur. Dominique Palmé, dans une lettre à Kawabata au moment où Mishima écrit Confession d'un masque, nous apprenons d'une part que c'est une commande d'éditeur, ce qui me paraît une très bonne idée d'édition, et que de plus, Mishima a l'intention d'être à la fois, je le cite, et la victime et le bourreau de son roman supposé autobiographique.
Oui.
Alors, quelle est la part de Mishima dans son personnage ? C'est ça dont je voudrais que nous parlions, parce que lui-même a employé le terme d'autobiographie. On sait par des détails que son enfance a pu ressembler à celle de son personnage, mais enfin, il y a une différence considérable entre les deux, c'est que lui s'est marié à une femme et il a eu des enfants. Donc le masque, il l'a porté, il a continué à le porter.
Oui.
Tout en l'ayant écarté, pourrait-on dire, en partie par ce
tout
roman.
Tout à fait. La part autobiographique est énorme. Ce roman paraît au Japon en début juillet 1949, si mon souvenir est exact. Et deux semaines après, Mishima prend la plume pour écrire à un des rares psychanalystes japonais de l'époque en disant « Tout ce que j'ai écrit dans ce livre est l'exacte vérité. À part dans un personnage, je pense qu'il a dû amalgamer un personnage réel, enfin celui de Sonoko, avec il y a mêlé d'autres éléments. Il disait « Je considère qu'avec ce livre, j'ai fait mon auto-analyse. » Donc, je pense que tout est absolument exact.
Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il a mis une certaine distance fictive, dont peut-être un indice est donné au tout début du roman, dans une scène qui, moi, me frappe, où il a l'air de dire que cet enfant se crée une fausse mémoire, c'est-à-dire qu'il prétend avoir des souvenirs de naissance, les adultes le contestent, le gamin s'entête avec un souvenir précis sur le rebord d'un tub où on le baignait, et il sait qu'il s'entête, et Mishima a l'air de nous dire qu'il crée cette mémoire. Est-ce que ça n'est pas là où je surinterprète un indice qui créerait une distance entre le créateur et son personnage?
Il essaye de créer une distance. Il essaye. D'ailleurs, il y a perpétuellement un aller-retour dans ce livre entre le personnage et le romancier. Le jeune romancier, il a besoin de créer cette distance, il a besoin de se dédoubler. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, ça apparaît dans un style de Mishima qu'on trouve très rarement chez les autres écrivains japonais, qui est l'ironie. C'est la distance de l'ironie. Et oui, bien sûr, il se crée des faux souvenirs, mais je crois qu'en revanche, tout ce qui est décrit de l'ordre des sensations, même si dans ces faux souvenirs, il va les mettre en situation parce que c'est romancé et il faut que ça soit plus frappant. Ça, il l'a complètement vécu.
Là où ils se ressemblent tous les deux sans doute, et le personnage et Mishima, c'est dans cette idée qu'il exprime au début qu'enfant, il veut mourir au combat. Et quand on connaît la fin de Mishima, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que, comme beaucoup d'écrivains, Mishima a voulu ressembler à ses lectures d'enfance.
Là, je suis en train de creuser, parce que je creuse l'œuvre de Mishima, que je trouve absolument passionnante, enfin, dans ses rapports aussi avec l'homme. Et je suis en train de découvrir que même dans la jeunesse de certains de ses romans, les souvenirs des contes de fées et des légendes de son enfance jouent un rôle bien plus important que ce qu'on pourrait imaginer, mais c'est masqué. Oui, je reviens à une de vos réflexions tout à l'heure. Mishima s'est marié, il a eu des enfants. Mmh. Enfin, je veux dire, ça, dans la société japonaise des années 50, il ne pouvait pas faire autrement.
Ah non, non, mais loin de moi, c'était pas du tout un reproche que je lui fais, c'était pour montrer la différence.
Je ne l'ai pas senti comme reproche, c'est-à-dire que...
Oui, c'est ça, il était la société telle qu'elle était lui imposait de se masquer, à nouveau.
Oui, et en même temps, mais vous savez, ça c'est le truc, il y a aussi en japonais deux expressions qui sont complémentaires. Omote, c'est ce qu'on montre, c'est la surface, c'est l'extérieur. Ura, c'est l'arrière. Hein. Et il se trouve que omote, en japonais, ça veut dire la surface, mais ça veut dire aussi le masque. On est obligé, c'est une société, et là, ça va paraître un petit peu excessif ce que je dis, c'est une société de gens qui sont schizoïdes, de gens qui sont complètement clivés. Mais même aujourd'hui.
Mais est-ce qu'en même temps, Dominique Palmé, tout ça ne vient pas aussi du bitume moraliste du 19e siècle qui est passé sur ce pays comme sur tant d'autres? Parce que le personnage de Confession d'un masque n'est pas le premier personnage de gay de la littérature japonaise. Il y avait la fameuse série du grand miroir de l'amour mal de Saikaku au 18e siècle où on en parlait assez librement.
Et je vais vous dire, il existe des rouleaux peints qui sont gardés à la maison impériale, qui sont des rouleaux peints érotiques du 13e siècle, si mon souvenir est exact, qui racontent la façon dont un supérieur de temple bouddhique, Sodo, mise ces petits moines. Hein. Je veux dire, c'est une pratique dans le Japon. Je pense que l'interdit est venu de l'influence de l'Occident. Et notamment, d'ailleurs, Mishima le dit lui-même, il a donné beaucoup d'interviews, notamment en anglais, mais il dit, mais de toute façon, le tabou vis-à-vis de l'homosexualité, ça vient de l'influence des missionnaires américains. Il n'y avait pas de tabou dans la société japonaise. Donc, et en plus, là, il a la malchance, si on peut dire, d'avoir 20 ans au moment où le Japon perd la guerre.
Et où les Américains reviennent.
Et où les Américains reviennent avec l'hypocrisie américaine, parce que quand même, les bars gays à Tokyo que fréquentaient les Américains. Donc, il y a ce truc de double face. Ce qui est très étonnant, c'est que sa femme, enfin, c'était un mariage arrangé, était tout à fait au courant de l'homosexualité de son mari. Elle lui aurait dit, vous pouvez faire tout ce que que vous voulez à l'extérieur, mais ne ramenez jamais un de vos amants chez nous », ce qu'il a parfaitement respecté. Donc c'est vraiment la double vie. En revanche, après sa mort, elle a demandé à un ami de Mishima, qui était un essayiste de droite nationaliste, d'écrire une biographie de Mishima pour démontrer qu'il n'était pas homosexuel, alors que tout le monde le savait.
Est-ce que, au-delà de, pour finir, au-delà de la sexualité, il n'y a pas quelque chose de peut-être encore plus prégnant dans ce personnage, qui est l'horreur de la vie pratique en tant qu'elle dérange l'idéalisme? Dans un passage très frappant, le jeune narrateur parle de la feuille de papier où il lit l'annonce de la défaite du Japon à la fin de la guerre, et je vous cite, enfin je le cite, elle était le signe que cette vie quotidienne des hommes dont le nom suffisait à me faire frémir et que je n'avais jamais cessé d'éluder en me faisant croire qu'elle n'arriverait jamais, allait s'abattre sur moi dès le lendemain.
Oui. Il y a vraiment un refus de la réalité. Et si vous voulez, l'une des raisons, enfin, on peut toujours, après coup, trouver toutes les raisons possibles et imaginables à un suicide. Moi, je comparerais plutôt, enfin, à part le fait qu'il s'est ouvert le ventre, ce qui est quand même une façon très, très douloureuse de mourir, vous savez, c'est un peu, pour moi, c'est un peu analogue au suicide de Monterland. C'est-à-dire que Monterland, comme Mishima d'ailleurs, avait absolument horreur de vieillir. Il meurt, il a 45 ans, c'est quand même très jeune. Il avait dit, mais moi, au-delà de 40 ans, il n'est pas question que je continue à vivre. Je ne veux pas vivre la déchéance d'un corps masculin. Il y a quelque chose comme ça. Mais quand on écoute ses interviews dans les dernières années de sa vie, il fait une analyse, mais d'une pertinence, sur le matérialisme de la société japonaise d'après-guerre sous l'influence américaine. Mais on sent qu'il est absolument désespéré par ça. Et je vais vous dire, quand on l'écoute maintenant, avec 50 ans, plus de 50 ans de distance, on se rend compte que ce qu'il dit de la société japonaise de cette époque, c'est exactement applicable à nos sociétés dites avancées maintenant. Donc, il y avait un désespoir derrière ça, un refus. Oui.
Dominique Palmet, que vous a appris le personnage du narrateur de Confession d'un masque ?
Bon, ça m'a certainement appris à, si je puis dire, à me frotter au style très particulier de Mishima. Il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est d'abord complètement stylistique. C'est-à-dire, l'écriture de Mishima est tout à fait étonnante. Et moi, il se trouve qu'avant d'étudier le japonais, j'ai fait des études de littérature comparée. Et de littérature moderne française aussi. Donc, ce qui m'a énormément frappé, c'est l'imprégnation que Mishima peut avoir par rapport à notre littérature française. Donc ça, pour moi, c'était fascinant. Par exemple, quand il commence, au début, longtemps, j'ai soutenu que j'avais tout vu de la scène de ma naissance. Le longtemps, c'est exactement longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Et il y a comme ça des clins d'œil tout le temps que j'ai trouvé délicieux. Par exemple, quand il décide, avant de retourner à Tokyo, et sa fiancée, ils font une petite promenade et il a décidé qu'il allait l'embrasser. Et il dit, on va faire 50 pas, au bout de 10 pas, je vais lui dire ça, au bout de 20 pas, je vais lui dire ça, etc. Pour moi, c'est un clin d'œil, je ne sais pas s'il est conscient ou non, au personnage de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, quand il décide qu'un soir, il va essayer de prendre la main de Madame de Rênal sur cette terrasse en été, voyez-vous. Donc ça, c'est absolument délicieux. Par ailleurs, il y a quelque chose que je trouve, sous l'analyse qui peut être absolument insupportable de narcissisme à certains moments, ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve qu'il y a chez ce personnage quelque chose d'absolument poignant, qui existait chez Mishima et qu'il a cherché toute sa vie à cacher par une extrême pudeur et dignité qui était justement son désespoir. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe et qui fait que j'aime aussi Mishima pour ça. Enfin, voilà.
C'était Personnage en personne, le 84e. La semaine prochaine, je parlerai des héros romantiques tels que nous les révèle l'exposition Paris romantique au Petit Palais.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet, prise de son Valérie Lavalard. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Paradis. À qui c'était un grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue.